Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. À la une ce soir, une question: quelle représentation pour le culte musulman en France ? Depuis aujourd'hui, le Conseil français du culte musulman, le CFCM, n'a plus de président. Le mandat de Mohamed Moussaoui est arrivé à son terme hier et l'instance, longtemps interlocutrice des pouvoirs publics, vit probablement ses derniers jours puisqu'elle pourrait s'autodissoudre le 19 février. Le CFCM avait été créé en 2003 sous la houlette de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. L'instance était contrôlée par quelques grandes fédérations musulmanes, mais elle a échoué sur de nombreux dossiers et elle achève aujourd'hui sa mission sur fond de profondes divisions internes. L'exécutif a par ailleurs annoncé la création d'un forum de l'islam de France. Alors l'année 2022 sera-t-elle celle de la restructuration de ce que les autorités appellent justement l'islam de France ? Et d'ailleurs, comment représenter le culte musulman dans sa diversité ? Et quelles leçons tirer de l'échec du CFCM ? On en parle pendant 20 minutes. Bonsoir Awais Seniger. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon et chercheur au laboratoire Triangle, spécialiste des rapports entre islam et politique. Et vous êtes également l'auteur de l'ouvrage « Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste » paru aux éditions Le Bord de l'eau. Alors d'abord, Awais Seniger, quel bilan est-ce que vous tirez de ce qu'a été l'action du CFCM, le Conseil français du culte musulman, depuis sa création en 2003 ?
Il est difficile de tirer un bilan, ou alors il faudrait prendre du temps pour analyser en détail les résultats enregistrés par le CFCM. Je dirais simplement, pour résumer ma pensée, que le CFCM a connu des hauts et des bas. Et souvent, l'actualité du CFCM a donné à voir des clivages, des dissensions, et des querelles entre des représentants réels ou supposés de musulmans fréquentant les lieux de culte. Cependant, il ne faudrait pas laisser penser au public, à ceux qui nous écoutent, que le CFCM n'aurait rien fait. Le CFCM a pu, de temps à autre, montrer qu'il avait une voix qui pouvait porter, notamment au moment la commission d'actes terroristes au nom de l'islam en France, mais aussi au niveau local. Certains acteurs, se sont beaucoup investis pour faire en sorte que les musulmans aient des lieux de culte dignes, etc. Mais force est d'admettre que ces querelles ont fini par rendre l'action et les activités du CFCM éminemment compliquées.
Alors Franck Frégosi vient de nous rejoindre en ligne. Franck Frégosi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po Aix, spécialiste de la gouvernance de l'islam en France. Vous êtes d'ailleurs en train d'écrire un livre intitulé « Gouverner l'islam en France ». Nous étions en train de parler avec Awais Seniger du bilan qu'on pouvait tirer de l'action du CFCM. Il soulignait d'ailleurs qu'il n'y avait pas que des échecs, qu'il y avait eu quand même depuis 2003 des avancées. Mais c'est vrai que le CFCM quand même connaît aujourd'hui une fin assez agitée avec notamment, on l'a vu ces derniers jours, une bataille de communiqués où volent les noms d'oiseaux. Ces divisions internes qu'on observe aujourd'hui, est-ce qu'elles sont liées à des visions opposées, divergentes de l'islam ?
Écoutez, je pense qu'il y a effectivement des tensions sont apparues très très tôt finalement dans l'histoire du CFCM. Ces tensions sont principalement dues à des rivalités, j'allais dire, entre fédérations nationales qui sont elles-mêmes le relais, je dirais, sur le territoire national d'un certain nombre d'États étrangers. Autant dire la rivalité, par exemple, entre l'État algérien et l'État marocain, qui au cours de l'histoire du CFCM s'est traduite par des oppositions entre la Fédération de la Grande Mosquée, par exemple, et les différentes fédérations reflétant l'islam officiel marocain. Donc il y a cela. Il y a ensuite, des tensions qui sont apparues, qui sont davantage, des querelles d'ego. C'est-à-dire, parmi toutes ces composantes, il y a certains qui s'estimaient les seuls légitimes pour parler au nom de l'islam et des musulmans de France. Donc ils considéraient qu'ils étaient seuls en capacité de dire ce qu'est l'islam aujourd'hui en France. Mais il y a aussi eu, peut-être des divergences d'appréciation s'agissant de ce qu'il faut entendre par être musulman aujourd'hui dans une société profondément sécularisée comme est la France, entre ceux qui défendaient plutôt une vision d'un islam assez, on va dire, traditionaliste, d'autres qui optaient plutôt pour un islam plutôt conservateur, et pour certaines formes d'expression d'orthodoxie plus ou moins pragmatique. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a eu des divergences quant à la compréhension de ce qu'est l'islam, mais il y avait surtout des rivalités, qui sont plutôt de l'ordre politique entre des fédérations qui finalement étaient elles-mêmes, devaient entre guillemets rendre des comptes à certaines puissances étrangères.
Alors effectivement, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que vous dites, hein, Franck Frégosi, et notamment cette question des financements et des liens avec l'étranger, et je voudrais qu'on y revienne dans un instant. Mais vous parlez effectivement de cette notion d'islam de France. À Ouest-Séniguère, est-ce qu'elle fait sens aujourd'hui, cette idée de construire un islam de France ?
Je comprends les querelles sémantiques qu'il peut y avoir autour de cette expression, mais de fait, c'est un islam de France, puisqu'il engage d'abord et avant tout des acteurs d'ici et à la fois d'ici et de là-bas. Les personnes qui représentent l'islam de France ont un passé, ont des origines, et ces origines créent parfois un halo d'ambiguïté dans le regard du commun. Mais cet islam de France existe. Il est travaillé, c'est ce que je dis, et j'aime à le répéter, à la fois par des forces centripètes et des forces centrifuges. Il y a à la fois l'intérêt de ces acteurs de construire un islam de France avec les musulmans d'ici, hein, faire en sorte qu'il y ait un islam visible, mais qui soit en harmonie avec le contexte culturel, juridique et politique français, mais ces acteurs continuent d'avoir des liens avec les pays étrangers. Donc on peut parler d'islam de France en étant conscient de la réalité de ces deux forces qui travaillent le champ islamique français, mais il faudrait ajouter un autre point. Je parlais de suspicion ou d'ambiguïté. Il ne faut pas laisser croire que parce qu'il y aurait un lien avec l'étranger, ces acteurs n'auraient aucun intérêt à voir émerger un islam en accord ou en compatibilité avec la culture et je dirais, le droit français. Donc, cet islam de France, quoi qu'il ait pu être construit par des acteurs du Maghreb, n'en continue pas moins de s'intéresser aux réalités locales franco-françaises.
Très concrètement, Franck Frégosi, aujourd'hui, quel est le poids de l'influence étrangère des acteurs étrangers que vous mentionniez tout à l'heure, comme par exemple le Maroc ou l'Algérie, au sein du Conseil français du culte musulman ?
Écoutez, leur poids traduit par le fait qu'ils font partie, en tout cas, je pense à la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, mais jadis, c'est ce qu'on appelle la Fédération nationale des musulmans de France, ou le RNF, sont des fédérations qui, en tant que telles, ont été à l'origine de la création du CFCM. Je rappelle, création quand même qui a été voulue par l'intervention de l'État, parce qu'on ne peut pas oublier non plus que l'État a une part de responsabilité aussi, finalement, dans le fait que le CFCM, est en voie de disgrâce aujourd'hui. Donc il y a d'une part cette présence, effectivement, par rapport aux membres fondateurs du CFCM, et plus largement le fait que lorsque le CFCM a été mis en place, notamment le premier CFCM, indépendamment des fédérations, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait tout de même informé un certain nombre de chancelleries étrangères du cours qu'il entendait donner à cette institution. Donc, il y a d'une part des fédérations OK qui existent, qui sont là, qui d'ailleurs n'ont jamais caché leur lien de prédilection avec certains États étrangers. Mais il n'y a pas que cela, il n'y a pas que l'Algérie et le Maroc, il y a aussi la Turquie plus récemment. Il y a le fait aussi que... Alors oui, ça reste quand même, le poids diplomatique, le respect, mais sans commune mesure. Mais
effectivement,
avec,
on peut citer après en deuxième rang la Turquie, l'Égypte, Mayotte et les Comores.
La Turquie en particulier, qui est un acteur nouvellement émergent, et on sait très bien que dans la crise du CFCM qui a éclaté il y a quelques mois de cela, c'était en partie lié au fait que deux fédérations regroupant majoritairement des musulmans turcs français avaient refusé de signer la fameuse charte des principes de l'islam, et que le ministre en a profité finalement d'une certaine manière pour enfoncer le clou vis-à-vis d'organisations turques, qu'elles étaient véritablement liées ou pas avec Ankara, mais dans un contexte où la France et la Turquie étaient entrées en conflit, en tout cas un conflit, on va dire, diplomatique. Donc je crois qu'il y a de multiples créneaux, modes d'expression, effectivement, de cette influence étrangère, mais comme l'a très bien dit Ouest-Séniguère, c'est aussi le reflet d'une histoire. J'allais dire, après tout, l'histoire de l'islam en France est aussi une histoire d'empire, d'un empire colonial qui s'est longtemps pensé comme un empire musulman. Et il est intéressant de voir comment, finalement, cette gouvernance de l'islam a pu évoluer. Aujourd'hui, me semble-t-il, il y a peut-être un tournant, je ne sais pas, avec la volonté en tout cas non pas de faire taire les grandes fédérations, parce qu'elles continueront toujours à s'exprimer, et elles correspondent à des réalités territoriales, mais en tout cas de considérer qu'il faut davantage peut-être écouter les acteurs dits de terrain, plutôt que des fédérations verticales, on va dire.
Alors justement, pour rebondir sur votre propos, je voudrais qu'on écoute l'ancien président du CFCM, qui a donc, je le disais, achevé son mandat hier, Mohamed Moussaoui. Lui, il estime que l'instance, elle est effectivement morte et qu'il faut, dit-il, passer à autre chose. Il parle d'une l'idée passer à une organisation plus légitime finalement que le CFCM, qui ne représente, dit-il, qu'un tiers des mosquées de France. On l'écoute.
C'est ce que j'ai proposé dès 2015, la départementalisation des cultes musulmans dans lesquels les fédérations n'apparaissent pas. Ça va effacer ces cloisonnements dans lesquels le culte musulman s'est enfermé. Je dirais que c'est la condition sine qua non pour passer un islam de France vraiment débarrassé de ses influences des fédérations de pays d'origine.
Décryptage sur RFI.
Clémentine Pavlotsky.
Ah ouais, c'est niguer. Le gouvernement français a lancé le forum de l'islam de France, le FORIF. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et est-ce qu'on peut être sûr finalement que ce FORIF, il sera en mesure d'échapper à l'influence étrangère dont on parle ?
Mais il y a des. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit à juste titre Franck Frégosi et répondre à votre question. Il y a à la fois, et il faut le souligner, il y a à la fois les impéricies des représentants réels ou supposés de l'islam de France, et il faut le noter, il faut le souligner, il faut le rappeler. Mais il y a aussi les injonctions contradictoires des services de l'État ou de l'État, tout en distinguant le niveau ministériel et le niveau des administrations, puisque parfois il y a des variations quant à la politique ou l'administration de l'islam de France. Quelles sont ces injonctions contradictoires ? D'un côté, l'État a beaucoup milité, si je puis dire, pour l'émergence d'un islam de France, on en a parlé il y a quelques instants, et en même temps, c'est longtemps appuyé sur des imams étrangers ou des imams détachés, par pragmatisme, pas par idéologie, parce que le culte musulman ne disposait pas de suffisamment d'imams, et on a cru bon, quand je dis « on », c'est les pouvoirs publics, faire appel à des ministres du culte étrangers. Et après coup, c'est-à-dire après avoir beaucoup compté sur ces ministres du culte venant de l'étranger du Maghreb, l'État a dit vouloir couper le lien avec les pays d'origine. Deuxième niveau de contradiction, puis j'en terminerai par un troisième point. Le deuxième niveau de contradiction, c'est de vouloir partir de la base en disant il faut un islam représentatif et en même temps coopter ou donner le sentiment qu'on coopte certains représentants plutôt que d'autres ou au détriment d'autres. C'est le cas en particulier du recteur de la Grande Mosquée de Paris, avec lequel il semblerait y avoir un lien privilégié. Et troisième niveau de contradiction, c'est de vouloir considérer les musulmans au même titre que d'autres concitoyens, agnostiques, athées, chrétiens, juifs, etc., et leur donner le sentiment de leur demander plus que les autres. Et cette charte des principes de l'islam de France, qui a été approuvée ou ratifiée par un certain nombre d'organisations musulmanes à la fin 2021, participe de cette ambiguïté entretenue par l'État lui-même. Les musulmans sont astreints à observer la loi comme n'importe quel autre concitoyen et cette charte n'a pas été comprise, non pas seulement par les représentants de l'islam de France, mais aussi par les musulmans ordinaires qui fréquentent les lieux de culte sans avoir aucun lien idéologique avec quelque organisation que ce soit.
Et effectivement, et c'est vrai que l'objectif affiché par l'exécutif français est assez clair. Il veut en finir avec la tutelle des fédérations de mosquées affiliées à des pays étrangers et in fine en finir avec l'islam consulaire. Mais en même temps, en vertu de cette loi de séparation des cultes et de l'État, le gouvernement français n'a pas vraiment la possibilité de s'immiscer dans l'organisation d'un culte religieux. C'est pour ça que je vous pose cette question, Franck Fenosi. Qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui de ce forum de l'islam de France qui pourrait avoir vocation à remplacer le CFCM ?
D'abord, il faut d'abord prendre acte du fait que, manifestement, les pouvoirs publics ont compris que, effectivement, le système qui avait été mis en place jusqu'à présent, qui avait été essentiellement pensé du haut vers le bas, d'abord le CFCM en plus, les conseils français, région de culte musulman, n'a pas fonctionné, je dirais, dans la longue durée. Donc c'est l'idée aujourd'hui d'entendre effectivement le point de vue d'acteurs de terrain, dit de représentants de l'islam des territoires. Donc cette idée-là, il faut prendre acte du fait que c'est sans doute une volonté de reprendre la question de la gouvernance de l'islam en mettant davantage l'accent sur finalement les acteurs du quotidien de l'islam, l'islam du quotidien des territoires. Pour autant, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui doivent être posées, puisque finalement ce FORIF a été mis en place. Les participants, on n'a pas la liste des participants, il y a 4 groupes de travail qui ont été mis en place. J'observe que sur ces 4 groupes de travail, il y en a un qui concerne la question des attentats musulmans, la sécurisation des mosquées, un autre qui concerne la question des aumôneries, qui est une grande question effectivement s'agissant du culte musulman comme des autres cultes, celui des imams, et puis un groupe de travail sur l'application de la loi contre le séparatisme. J'observe qu'aucun groupe de travail à ce jour n'a été constitué, par exemple, sur la nécessité ou pas de faire émerger un organe qui remplacerait le Conseil français du culte musulman. Cela m'amène à m'interroger, est-ce que finalement, ce n'est pas le FORIF qui, d'une certaine manière, deviendra désormais le canal officiel des relations entre l'État et le culte musulman, ou est-ce que Peut-être qu'il faut laisser du temps au temps, comme disait l'autre, et sans doute nous sommes dans une phase en plus qui va être marquée par les élections présidentielles, et c'est simplement, je dirais, on tâte le terrain avant d'aller plus loin, parce que fondamentalement la question elle est là. C'est d'un côté reconnaître effectivement que donner la parole à des acteurs de terrain c'est plutôt une bonne idée, plutôt que des acteurs verticaux. Pour autant, faut-il encore s'assurer que ces acteurs, sur quels critères ont-ils été choisis, puisque les listes émanent des préfectures, est-ce que tous les noms ont été retenus, et surtout, quelle va être leur marge de manœuvre, puisque ces différentes questions apportent des réponses précises. Donc, je ne sais pas aujourd'hui quelle va être la marge de manœuvre des membres du groupe IMAM. Est-ce qu'ils vont pouvoir travailler pleinement de manière indépendante pour éventuellement confectionner un énième statut de l'IMAM en France? Donc voilà, toute une série de questions qui n'ont pas encore de réponse. J'ajoute qu'il n'y a aucun groupe de travail, par exemple, qui a été mis en œuvre sur la question de l'éventuel autofinancement du culte.
Or, c'est une vraie question si l'État veut effectivement se débarrasser de l'influence, de la tutelle de certains pays étrangers. C'est vrai que là, avec en plus l'approche de la présidentielle d'avril 2022 en France, on peut dire que c'est un peu une période quand même décisive hein, qui s'ouvre pour l'islam de France. Aouez Séniguer, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du CFCM ou de la future instance qui pourrait venir à remplacer le CFCM et du rapport avec les pouvoirs publics, mais on parle finalement assez peu des musulmans de France eux-mêmes. Pour revenir sur le bilan du CFCM, quel était le degré de connexion du CFCM avec les musulmans de France? Est-ce qu'ils se sentaient vraiment représentés par le CFCM?
Alors, la question que vous posez est excellente parce qu'on parle du FORIF, mais on retrouvera dans le FORIF ce qu'on voit au niveau local, c'est-à-dire les déclinaisons du CFCM. Vous voyez, c'est ça qui est paradoxal et très, très ambigu dans le débat ou dans la tentative de l'État. C'est que ceux que l'on retrouvera en dernière instance, ce seront ceux qui étaient déjà là au départ, puisque c'est eux qui font vivre, ces acteurs qui font vivre l'islam local. Par rapport à la déconnexion, moi je pense que le CFCM est plus ou moins en connexion avec le terrain, puisqu'il y a des mosquées qui sont affiliées et qui ont donc un lien avec les observants, ceux qui fréquentent les lieux de culte. Mais il y a quelque chose qui est frappant, c'est que la plupart du temps, les musulmans qui fréquentent les lieux de culte ne s'interrogent même pas sur l'identité des acteurs qui administrent le lieu de culte en question. Que veulent les musulmans? Ils veulent pratiquer un islam dans un endroit dédié, avec un imam qui connaît suffisamment les rudiments de la religion et qui a une connaissance de la société française et de ce qui s'y passe, sans s'intéresser outre mesure à la coloration idéologique ou théologique des acteurs qui administrent ces lieux de culte. Et il est vrai qu'on a tendance à focaliser l'attention, quand je dis « on », une fois encore, c'est les pouvoirs publics, on focalise l'attention sur les représentants, réels ou supposés, sans s'intéresser véritablement à ceux qui fréquentent les lieux de culte et qui sont des citoyens qui peuvent aller à la mosquée, mais qui ne sont pas musulmans forcément 24 heures sur 24, si je puis dire.
Et qui reste effectivement en premier lieu des citoyens français. Merci beaucoup à tous les deux. Aouez Séniguer, maître de conférence en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon, chercheur au laboratoire Triangle, spécialiste des rapports entre l'islam et le politique. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste, paru aux éditions Le Bord de l'eau. Merci beaucoup à vous également, Franck Frégosi, directeur de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po Aix, spécialiste de la gouvernance de l'islam en France. Et vous vous apprêtez à publier un livre intitulé « Gouverner l'islam en France ». C'était le décryptage du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. À partir de lundi prochain, vous aurez le plaisir de retrouver Anne Corpé à la présentation de cette émission. Sachez que ce fut un plaisir de vous avoir aidé, je l'espère, à mieux comprendre l'actualité ces derniers mois. Un grand merci à Sigrid Azeroual et à Éléonore Krenik qui m'ont aidé à préparer ces émissions, à Claude Battista et Hélène Avril qui m'ont accompagné à la réalisation technique. Merci également à la documentation et la sonothèque de RFI, ainsi qu'à la rédaction en chef pour sa confiance, Patrick Adam, Frédéric Misselin et Lisa Chaboussan. Et je vous dis à bientôt sur la Radio du Monde.
RFI.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose...